J'ai juste une très courte annonce avant de plonger dans le cœur du message d'aujourd'hui. Vous êtes une belle illustration de mon annonce. Dans les derniers mois, en fait, depuis 2 ans et demi que l'Église est démarrée, l'Église grandit d'une saison à l'autre, automne, hiver, printemps, tout ça, l'été même, l'été dernier, on a connu une croissance pendant l'été. L'Église grandit et jamais on aurait imaginé atteindre de telles assistances dans ces locaux-là. Si on m'avait dit un jour, comme dans les dernières semaines, plus de 1200 personnes dans un dimanche régulier ici à Nouvelle-Vie, Québec, on n'aurait jamais cru ça. Et ça va bientôt faire une année complète qu'on a 3 réunions maintenant à chaque dimanche. Et j'en profite, est-ce qu'on peut juste donner une main d'appréciation à tous les bénévoles qui portent ça? Pour vous donner juste une idée de perspective, ça prend 150 au minimum bénévoles par dimanche, simplement pour faire ce qu'on fait. Alors, c'est souvent 150, entre 150 et 200 personnes qui servent à toutes les semaines pour juste maintenir les 3 réunions. Mais actuellement, avec la croissance qu'on connaît, les 2 premières réunions sont vraiment à capacité. Lorsqu'on parle de ça, on parle de la salle ici, où est-ce qu'on est en ce moment. Le stationnement est un enjeu. Les locaux pour enfants sont aussi un enjeu. Imaginez, juste quelques instants avant de plonger dans le message, dans les 2 premières réunions, c'est pas rare qu'une 100aine d'enfants ou plus à chaque réunion. Imaginez. Alors, nous, on est ici, mais il y a 100 enfants et plus de l'autre côté dans des locaux qui commencent à être petits pour 100 enfants à la fois. Alors, voici mon cri du cœur pour vous aujourd'hui. S'il y en a pour qui ce serait possible de considérer migrer à la 3e réunion, où il y a un petit peu plus de place, et pour être franc avec vous, c'est la meilleure des réunions. C'est de loin la meilleure. On fait toutes nos erreurs dans les 2 premières et la 3e, c'est la bonne. C'est celle-là qui est vraiment la meilleure. Il y a un petit peu plus de place. On est très conscient que la plage horaire, elle est moins idéale pour plein de gens pour différentes raisons. Mais si c'est possible pour certains de considérer s'attacher à la 3e réunion, qui est identique aux 2 premières, pour aider à faire de la place dans les 2 premières réunions pour toutes les personnes que Dieu envoie semaine après semaine, on veut que les gens que Dieu envoie trouvent une place dans la salle, qu'ils peuvent s'asseoir, qu'ils peuvent stationner leur voiture, qu'il y a de la place pour leurs enfants. Alors, on ne veut pas freiner ce que Dieu fait par manque de place. Alors, si c'est possible pour certains de considérer migrer à la 3e, et moi, je vous dirais, voyez-le comme un acte missionnaire pour l'œuvre de Dieu. Il y en a, vous avez un cœur missionnaire. À quand les voyages missionnaires? J'ai un voyage pour toi jusqu'à la 3e réunion. Voici le prochain voyage missionnaire de l'Église Nouvelle-Vie Québec. On va faire des T-shirts. Je l'ai dit à la première, on va en faire des T-shirts. Je suis en mission. On va donner ça à des gens qui sont à la 3e réunion, qui passent de la 1e à la 2e, qui s'en vont à la 3e. Vous allez remplir une chaise. Ici, vous allez servir avec nous à la 3e en mission pour faire de la place dans les 2 premières. Est-ce que vous êtes avec moi là-dessus? Amen. Amen. Alors, merci de le considérer. Sincèrement, merci de nous considérer ça pour qui c'est possible. Sans pression sur personne, c'est pas possible. Mais si vous pouvez, ça nous aiderait vraiment beaucoup à faire de la place dans les 2 premières réunions pour toutes les gens et qui vont venir, je vous le dis, par centaines dans les prochains mois et années. On a besoin de faire de la place pour ce que Dieu fait. Amen. Amen. Alors, on poursuit ensemble notre série « En chemin vers la résurrection ». Et si tu as manqué les 2 derniers messages, juste rappeler à chacun, ils sont toujours disponibles en ligne. La semaine dernière, Pasteur Samuel, un message qui était là en plein milieu du blizzard, comme un seul homme prêchait la parole de Dieu. Le message est en ligne, super, excellent message que Sam a apporté. Puis le message d'avant est également disponible. Il y a 2 semaines, j'apportais un message que la résurrection devait changer notre façon de parler. Et si tu étais là, tu t'en rappelles, sinon on va sur Internet rattraper ce message, que la résurrection de Jésus devrait changer la façon qu'on parle aux gens, qu'on parle dans les situations qu'on voit autour de nous. Et le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin, c'est que la résurrection, lorsqu'on croit dans le Dieu de la résurrection, celui qui est revenu à la vie, qui est vivant encore aujourd'hui, sa résurrection devrait changer la façon qu'on voit les circonstances autour de nous. Lorsqu'on sait qu'on marche avec le Dieu vivant, le Dieu de la résurrection, que la résurrection n'était pas simplement un événement passé, c'est encore aujourd'hui où Jésus ramène à la vie des choses qui étaient mortes en nous. Lorsqu'on marche avec ce Dieu, ça devrait changer la manière qu'on regarde les gens et les situations autour de nous. Et si tu es d'accord aujourd'hui, on se fait un avant-goût de Pâques ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Avant-goût de Pâques. Si tu as une Bible, je t'invite à aller avec moi dans le livre de Matthieu au chapitre 27 et début chapitre 28. On va regarder à une conversation qui a lieu entre l'élite politique de l'époque et l'élite religieuse. Alors que Jésus, lorsqu'on va plonger dans l'histoire de ce matin, il faut comprendre que Jésus vient juste d'être crucifié. Jésus est mort et même placé au tombeau. Et alors que Jésus est dans le tombeau, alors que Jésus était en chemin vers sa résurrection, entre la crucifixion et la résurrection, il y a un groupe de leaders religieux qui vont aller voir Pilate, qui représente l'élite politique de l'époque. Et cette conversation-là, ils vont discuter ensemble comment est-ce qu'ils peuvent empêcher l'œuvre de Jésus de continuer. Maintenant que ce Jésus-là a été crucifié, maintenant qu'il est mort, mais qu'il n'est pas encore ressuscité, maintenant qu'il est mort, la discussion entre eux, c'est comment on peut s'assurer, en fait, que l'œuvre de ce Jésus-là finisse maintenant. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que le message que ce Jésus-là a apporté puisse mourir avec lui maintenant. Et on plonge au cœur de leur conversation dans Matthieu chapitre 27, les versets 62 à 66. Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens, ça c'est l'élite religieuse de l'époque, allèrent ensemble chez Pilate, qui représente l'élite politique de l'époque. Et voici ce qu'ils disent à Pilate. « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, en parlant de Jésus, cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ça, c'est ce que Jésus avait dit. Jésus a dit, « Lorsque je vais aller à la croix, sachez que 3 jours plus tard, je vais revenir à la vie. » Et l'élite politique et religieuse est en train de se dire, « On se souvient qu'il a dit ça. » Alors, regardez verset 64. « Alors, ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité. » Cette dernière imposture serait pire que la première. » Ce qu'ils sont en train de discuter ensemble, c'est qu'il faut absolument garder le tombeau de toutes les manières possibles pour s'assurer qu'aucun des disciples de Jésus va venir voler le corps pour faire semblant que Jésus est vraiment ressuscité. Il dit ça, ça sera encore plus grave que le message de Jésus qui s'auto-proclamait lui-même le Messie. Alors voici ce que Pilate va leur répondre. Pilate leur dit, vous avez une garde. Il parle ici de gardiens. C'est des hommes militaires, c'est des gardes armés. Vous avez ça. Alors gardez-le comme vous le souhaitez. Pilate est en train de leur dire, prenez tout ce que vous avez besoin comme garde. Vous avez la garde, mettez-la où vous voulez. Prenez-en comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Assurez-vous qu'ils ne sortent pas de là. Verset 66. Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Ce qu'on assiste ici, c'est une conversation entre les leaders religieux, les leaders politiques, qui essaient de toutes les manières possibles de s'assurer que ce Jésus-là, son œuvre se termine dans le tombeau qui est présentement. Alors, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Ils vont mettre une garde militaire pour s'assurer que Jésus ne peut pas sortir et que personne ne peut rentrer voler le corps. Ils vont rouler une pierre qui est énorme. Les historiens vont dire que c'est une pierre qu'aucun homme seul peut bouger. C'est énorme. Ils vont mettre une pierre devant l'ouverture du tombeau pour s'assurer de un, qu'aucun homme peut rentrer et que de deux, celui qui est à l'intérieur n'aura jamais assez fort pour pousser cette pierre et sortir. Et ce qu'ils vont faire par la suite, c'est de sceller la pierre. Les historiens vont nous décrire que lorsqu'on parle de sceller la pierre, littéralement, ce que les autorités faisaient à l'époque, c'est qu'ils prenaient une corde et ils plaçaient la corde d'un bout à l'autre de la roche qui était devant le tombeau et qui faisait tenir la corde par de la cire de chaque côté. Alors, de cette manière-là, si la roche était bougée, les scellants qui étaient là, la cire se défaisait et la corde tombait. Et c'était la façon de savoir que quelqu'un avait bougé la pierre. Alors, lorsqu'ils viennent sceller la pierre avec cette corde-là qui tient par deux bouts dans la cire, c'était pour s'assurer que jamais personne n'allait bouger cette pierre-là, que si quelqu'un la bougeait, on allait le savoir parce que la corde allait tomber par terre. Alors, c'est simplement toutes les stratégies qu'ils mettaient en place pour s'assurer d'éradiquer complètement le message et l'œuvre de Jésus. Et alors qu'eux parlent de Jésus comme étant un imposteur, alors qu'ils disaient son message va enfin mourir avec lui dans le tombeau, alors qu'on disait que tout était fini, alors, malgré tous les efforts des leaders religieux, malgré tous les efforts des leaders politiques d'arrêter l'œuvre de Dieu, Dieu préparait quelque chose qui allait bouleverser l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Alors que les hommes ont essayé par tous les moyens d'empêcher Jésus de continuer son œuvre, Dieu préparait quelque chose. Et c'est mon message, c'est le titre du message d'aujourd'hui. Dieu prépare quelque chose. Alors que les hommes essayaient par toutes les façons d'empêcher Jésus de sortir, alors que les disciples eux-mêmes se demandaient qu'est-ce qui allait arriver, Dieu était en train de préparer quelque chose qui allait bouleverser l'histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est le titre de mon message. Et tourne-toi vers ton voisin qui a l'air d'avoir le besoin de plus d'encouragement ce matin. Et dis-lui, je ne sais pas ce que tu traverses, Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu prépare quelque chose. Dieu prépare quelque chose. Dieu prépare quelque chose. Parce que combien savent qu'alors que Jésus est au tombeau, le troisième jour allait être la manifestation de ce que Dieu préparait depuis longtemps. Le troisième jour, alors que Jésus était là, dans le tombeau, c'était la gloire de Dieu qui allait éclater malgré toutes les stratégies, toutes les mesures humaines pour freiner l'œuvre de Dieu. Le troisième jour était la preuve que Dieu préparait quelque chose alors que les hommes préparaient quelque chose. Par-dessus eux, Dieu préparait quelque chose. Et la suite de l'histoire dans Matthieu 28, c'est ceci. Verset 1, après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Et soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes qui étaient là par les autorités religieuses et politiques, les gardes qui étaient supposés garder et empêcher Jésus de sortir, tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. » C'est écrit dans mes notes que Nouvelle Vie Québec allait éclater en disant « Amen à ça ». Il n'est pas ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Dieu préparait quelque chose. Pour les disciples de Jésus, cette saison-là est une saison qui a mis à l'épreuve grandement leur foi, leur confiance dans les paroles de Jésus. Parce qu'imaginez, Jésus avait annoncé qu'il devait aller à la croix. Jésus avait annoncé déjà à ses disciples qu'il allait revenir à la vie, qu'il allait l'emporter sur la mort, sur le péché et les plans des hommes. Mais alors que les disciples se retrouvent dans cette période où Jésus était arrêté, maintenant, la crucifixion n'était pas juste des paroles de Jésus. La crucifixion était maintenant leur réalité où leur sauveur, le Messie, a été tué. Il était sur la croix une fois pour toutes pour tes péchés, mes péchés, leurs péchés. Maintenant, Jésus est mort et est au tombeau. C'est une saison où la foi des disciples a été mise à l'épreuve, où leur confiance dans les paroles de Jésus a été mise à l'épreuve. Parce que maintenant, ce n'est plus juste des choses à venir, c'est rendu des choses présentes. Ça veut dire que l'incertitude n'est pas juste à venir. L'incertitude, on marche dedans maintenant. Alors, les disciples sont là à se demander qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ce que Jésus a annoncé était réellement vrai? Est-ce que ce que Jésus a promis, il va vraiment l'accomplir? Parce que maintenant, il n'est plus avec nous. Maintenant, il est au tombeau. Et c'est une saison, quelques jours, mais une saison très difficile pour les disciples, où après, tout ça, l'arrestation, crucifixion, qu'est-ce qui va arriver? Les doutes sont là. La Bible va dire dans l'Évangile de Luc qu'alors que les femmes vont voir les disciples pour leur dire « Jésus est vivant », les disciples de Jésus, ceux qui ont marché avec lui pendant 3 ans, certains vont répondre aux femmes en disant « C'est des absurdités. » Vous lirez votre Bible dans l'Évangile de Luc. Ils vont répondre, ce que vous dites là est des absurdités. Les propres disciples de Jésus sont dans le doute. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va arriver? L'instabilité qui est là. Puis au milieu de leur doute, au milieu de leur incrédulité à certains, au milieu de leur peur de qu'est-ce qui va arriver? Jésus est mort maintenant. Au milieu de tout ça, une des promesses qu'on a, une des réalités de la résurrection, c'est que Dieu préparait quelque chose malgré leur peur, malgré leurs doutes et même malgré leurs incrédulités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même moi, parfois, lorsque je traverse des saisons où je me demande comme les disciples, est-ce que ce que Dieu dit va le faire? Est-ce que les promesses de Dieu sont vraies? Est-ce que Jésus est vraiment vivant? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir le faire? Est-ce que Jésus va vraiment l'emporter sur la mort dans ma vie? Est-ce que j'ai un Jésus capable d'agir? Est-ce que Jésus me voit lorsqu'on se retrouve dans des saisons comme les disciples à se demander, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que ça arrive ça? Mon incrédulité ne pourra jamais empêcher Dieu de préparer des choses en arrière de la scène. Mes doutes n'empêcheront pas Jésus de préparer des choses pour moi derrière le rideau de ma vie. Et si tu marches avec Dieu, si tu crois dans ce Jésus-là qui est ressuscité des morts pour toi, qui l'a emporté sur le péché, qui l'a emporté sur l'ennemi une fois pour toutes, si tu marches avec Dieu, la manière que tu vois les circonstances devrait changer. Si tu marches avec ce Jésus-là qui est ressuscité, la façon que tu regardes aux autres, que tu regardes aux circonstances de ta vie, doivent changer. Je ne regarde pas les gens comme les gens qui ne connaissent pas Dieu les regardent. Je ne regarde pas les circonstances comme les gens qui ne connaissent pas Dieu les regardent. Parce que maintenant, moi, je crois dans le Dieu de la résurrection. Ça veut dire que peu importe ce que je traverse, je sais que Dieu est toujours en train de préparer quelque chose. Amen. C'est vraiment amen faible à la deuxième réunion. Je suis dans une situation difficile, mais je peux avoir confiance que Dieu prépare quelque chose. Jésus était au tombeau, mais on pouvait avoir confiance qu'il préparait quelque chose. Que ni la mort, ni les actions des hommes, ni les stratèges politiques et religieux ne pouvaient empêcher Jésus d'accomplir ce qu'il avait dit. Ça veut dire que dans les pires situations de ma vie, lorsque je marche, est-ce que je ne vois pas un pied devant l'autre, j'ai de la misère à voir qu'est-ce que Dieu fait, est-ce que Dieu me dirige, est-ce que Dieu me guide, est-ce que Dieu est encore là, est-ce que Dieu me voit, est-ce que Dieu m'entend, je peux marcher avec confiance que même si je n'ai pas toutes les réponses à mes questions, Dieu est toujours en train de préparer quelque chose dans ma vie. Amen. Je me prêche à moi-même. Si vous ne prêchez pas, amen. Je me dis amen. Pasteur JP, prêche, Pasteur JP. La résurrection, je le dirais comme ça, la résurrection change nos attentes de ce que Dieu peut faire. Le Dieu de la résurrection vient changer la façon dont on s'attend à Dieu. La résurrection m'enseigne que même les pires situations, les situations qui semblent le plus sans issue dans ma vie, ne sont jamais finales. Ce qu'on vient de lire ensemble, je ne sais pas ce que tu traverses ce matin, puis en ligne, je ne sais pas ce que tu traverses, mais si tu es ici ce matin, si tu respires, c'est déjà une situation qui est plus positive que celle de Jésus dans Matthieu 27. Lorsque Jésus est lui-même dans le tombeau, il est mort dans un tombeau. Ça, c'est une situation impossible. Alors, je ne sais pas ce que tu traverses ce matin, mais le Dieu de la résurrection est ici. Et que ce que Jésus m'enseigne dans Matthieu 27, c'est que même si les situations semblent impossibles, elles ne sont jamais finales avec lui. Jamais finales. La résurrection change mes attentes. Je peux m'attendre, je le prêche à moi-même, mais je le prêche pour toi. Tu peux et je peux m'attendre à de grandes choses de la part de Dieu, peu importe ce que je traverse. Mes attentes sont toujours tournées vers le fait que le Dieu de la résurrection est en moi. L'Esprit de Dieu est en moi. Dieu marche avec moi. Dieu marche devant moi et il est le Dieu vivant. Ça veut dire que peu importe dans quelle situation je vais marcher, j'ai confiance que le Dieu de la résurrection peut encore agir. Ça change mes attentes. La foi, c'est l'assurance qu'il y a un potentiel de résurrection, même dans les pires situations de ma vie. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Lorsque je mets ma vie dans les mains de ce Dieu-là, ça vient me donner une conviction, une confiance qu'il y a toujours un potentiel de résurrection, même dans les pires situations de ma vie. Et ça, c'est très contre-culturel parce que sur les attentes, lorsqu'on dit parfois, même dans notre jargon, on va dire « je m'attends à Dieu, j'ai des attentes, je veux que Dieu agisse, je m'attends à Dieu ». Ce matin, on priait ensemble, l'équipe de louange, l'équipe de musique et tout ça avec la prod, puis là, on priait juste « Seigneur, on s'attend à toi ». Mais c'est contre-culturel parce que souvent, ce qu'on entend, ce que je me suis fait dire beaucoup, c'est « fais attention de ne pas avoir trop de grandes attentes, parce que si tu as des grandes attentes, tu as plus de risques d'être déçu ». Je ne sais pas si quelqu'un t'a déjà conseillé ça dans la vie, probablement à différents niveaux, dans différentes sphères de ta vie. Ça peut être relationnel envers des gens, ça peut être dans des situations où tu avais beaucoup d'espoir dans certaines choses, dans ta carrière, dans plein de choses. Puis les gens vont te dire, fais attention, parce que si tu as des trop grandes attentes, plus grandes sont les attentes, plus grand est le risque d'être déçu. Alors, n'aie pas d'attente, comme ça, tu ne seras pas déçu. Quelqu'un s'est déjà fait dire ça? On m'a dit ça plusieurs fois. C'est un des pires conseils qu'on m'a déjà dit dans le mariage. Quelqu'un qui m'a déjà dit, moins tu as d'attente dans le mariage, moins tu es déçu. Quelle perspective triste du mariage! Comme si le but de mon mariage, c'est juste de ne pas être déçu. Moi, j'aimerais dire à chacun de son marié, les futurs mariés dans ce lieu, savez-vous qu'à notre église, il y a un couple qui va se marier à 86 ans, 84 ans? Savez-vous ça? Savez-vous ça qu'on se marie à 86 ans? C'est extraordinaire. Moi, c'est juste, ils ont fait ma journée tantôt. Ils sont là, ils ont l'air d'avoir 22 ans, fous amoureux. Eux, ils rentrent pas dans le mariage en se disant « on veut juste pas être déçus ». Non, non, ils ont des projets, ils sont là, on veut glorifier Dieu, on veut que notre mariage soit un témoignage pour les plus jeunes. On rentre pas dans le mariage juste parce qu'on veut pas être déçus. Quelle perspective triste du mariage. Le mariage est fait pour accomplir des choses ensemble, être épanoui ensemble, bâtir quelque chose ensemble, une famille ensemble, un héritage ensemble, un ministère ensemble. Quelqu'un peut se dire « amen » à n'importe quel moment. C'est ça le but. C'est pas juste de pas être déçu. Fais attention, lorsqu'on a implanté l'église, tellement de pasteurs et leaders nous ont dit « Faites attention, JP, fais attention de ne pas avoir trop d'attentes. Parce que si tu as des trop grandes attentes dans l'implantation d'église, tu risques d'être déçu. En plus que ça implante l'église en pleine pandémie, garde tes attentes basses. » Je veux dire qu'il y avait un peu de sagesse là-dedans quand même. Mais garde les attentes basses. Garde les attentes basses pour ne pas être déçu. Si tu t'attends à rien, tu ne seras pas déçu. Puis il y en a pour qui je comprends, parce que dans la vie, plus tu as du millage dans la vie, plus que tu as eu d'occasion d'être déçu. Alors, je comprends pour certaines personnes, parfois c'est dur de dire, je vais m'ouvrir pour faire confiance et mettre des attentes dans la vie d'une personne parce que j'ai déjà été déçu dans le passé. Pour certaines personnes, c'est difficile de dire, je veux avoir des attentes, je veux mettre de l'espoir dans certaines choses parce que je l'ai déjà fait et j'ai été déçu. Mais je veux juste nous rappeler ce matin que le message de la Bible n'est pas diminue tes attentes, comme ça peut-être que tu vas pouvoir traverser toute ta vie et te rendre dans l'éternité avec Dieu en ayant été le moins déçu possible, le moins de risques possible, puis personne ne va t'avoir blessé, personne ne va avoir rien fait, tu vas avoir juste un petit train tranquille comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Le message de la Bible n'est pas de baisser nos attentes. Le message de la Bible, c'est de placer nos attentes dans les mains de la bonne personne. Et il y en a, tu as besoin de sortir avec ça aujourd'hui parce que tu as abandonné. Tu ne mets plus d'attente sur personne, tu ne mets plus d'attente sur rien et tu ne mets plus d'attente envers Dieu non plus. Le message de la Bible n'est pas de ne plus avoir d'attente. Le message de la Bible, c'est de mettre nos attentes à la bonne place et dans les bonnes mains. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire dans Philippiens 3, verset 3. L'apôtre Paul va dire ceci. Il va dire, nous mettons toute notre confiance, pas juste une petite partie, toute notre confiance en quoi? En qui? En Jésus-Christ. Au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Paul n'est pas en train de dire, mettez pas votre confiance en rien parce que vous allez être déçus. Paul est en train de dire, non, mettez toute votre confiance. Ça veut dire, Seigneur, je mets ma vie dans tes mains, je mets mon mariage dans tes mains, je mets mes enfants dans tes mains, je mets ma carrière, mes finances, mon ministère, je mets toute ma vie dans tes mains, toute ma confiance, elle est en toi, Seigneur. Parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu ressuscité. Alors, je mets toute ma confiance en toi. Paul ne dit pas « baisse tes attentes ». Il fait juste nous enseigner où les mettre. Parce que Paul ne dit pas « mettez toute votre confiance dans les gens autour de vous ». Il y a beaucoup de sagesse à ne pas mettre toute ta confiance dans certaines personnes. Paul ne va pas dire « mets toute ta confiance dans l'organisation de l'Église, dans l'institution de l'Église ». Pas ce que Paul va dire. Pas non plus dans les gens. Il ne va pas dire « mets toute ta confiance dans ton argent, dans ton fonds de retraite ». Dans ta carrière, Paul va dire non, la source de notre confiance et dans laquelle on peut avoir de grandes attentes, c'est la personne et l'œuvre de Jésus. Ça veut dire que je ne mets pas ma confiance dans les mains de n'importe qui, je ne mets pas toute ma confiance dans n'importe quoi, mais lorsque vient mettre ma confiance dans les mains de Dieu, je veux toute la mettre. Ça veut dire, Seigneur, je peux m'attendre à de grandes choses de toi parce que toi, tu es fidèle et tu accomplis toujours ce que tu dis. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Notre confiance n'est pas dans un mouvement religieux. Notre confiance n'est pas dans un pasteur. Notre confiance n'est pas dans l'Église Nouvelle Vie de Québec. Notre confiance n'est pas dans nos propres capacités à faire les choses. Notre confiance n'est pas dans l'économie. Et ça, j'espère qu'elle n'est pas beaucoup pour vous non plus. Notre confiance n'est pas dans le gouvernement. Je vais me taire de commentaire là-dessus. Mais notre confiance n'est pas là-dedans. Notre confiance est dans la personne de Jésus qui est fidèle depuis toute éternité. Et la résurrection de Jésus me montre que je peux lui faire confiance parce qu'il a accompli ce qu'il avait dit. La confiance est en lui. Parce qu'il est ressuscité, je peux m'attendre à lui. Je m'attends que Dieu agisse. Et là, ici, ce matin, tu dois recommencer à faire confiance à Dieu. Recommencer à mettre tes attentes dans les mains de Dieu. De dire, Seigneur, je ne veux pas juste être comme le dicton québécois, juste être né pour un petit pain ici. Non, spirituellement, on n'est pas né pour un petit pain. Dieu nous promet la vie en abondance. Pas juste les miettes qui tombent à terre. Il nous promet la vie en abondance. Alors, Seigneur, je m'attends à de grandes choses de ta part. Alors, voici ce que je traverse, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas quand tu vas le faire. Je ne sais pas où tu vas le faire. Mais j'ai confiance que tu vas faire quelque chose. Oh, j'espère que ça vient réveiller un peu de foi dans vos cœurs ce matin. Je m'attends que Dieu agisse. Ça, c'est mon mode par défaut. Je me demande pas est-ce que Dieu va le faire. Je me demande pas est-ce que Dieu m'entend. Mon mode par défaut, parce que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant, mon mode par défaut, peu importe ce que je traverse, c'est de dire, Seigneur, je sais que tu prépares quelque chose et je m'attends à toi. Amen. L'objet de mon espérance, c'est pas la manière que Dieu ferait quelque chose en particulier. Ce n'est pas un timing en particulier. Ce n'est pas un endroit où je pense que Dieu peut faire quelque chose en particulier. Je veux m'attacher à la personne de Jésus. Parce qu'il y en a ici, on va idolâtrer certaines fois les manières où on pense que si Dieu va agir, ça va être comme ça. Il va restaurer mon mariage comme ça. Il va ramener mes enfants comme ça. Il va bâtir son église comme ça. Le prochain pas pour l'église, le prochain bâtiment va être comme ça. Parfois, la manière devient une idole. Mais ce matin, Dieu vient juste nous rappeler la confiance, c'est pas dans la manière. La confiance, c'est pas dans le timing. La confiance est en lui. C'est-à-dire que lui connaît le meilleur timing. Lui connaît la meilleure manière. Alors ma confiance est en lui. Viens faire ton œuvre, Seigneur. Je m'attends à toi. Je sais que tu prépares quelque chose. Amen. 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 Quand tu marches avec le Dieu de la résurrection, ça change la manière que tu vois les choses. Ça change vraiment la manière que tu vois les choses. Vous savez quoi? Ceux qui marchent avec Dieu devraient être les gens les plus positifs qui existent. Et pas les plus négatifs qui existent. Il y en a, c'est une parole, Saint-Esprit, viens convaincre. Moi, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Mais il y en a, vous avez besoin d'une parole du Seigneur ce matin. Ça veut dire que lorsque je marche avec Dieu, ça veut dire que ce que je vois en premier, c'est pas juste les problèmes. Je vois le potentiel de résurrection. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un monde de licorne où tout est rose, tout est parfait, puis il n'y a jamais de défi, puis tout est parfait, puis on n'a jamais d'épreuve, on n'est jamais dans la tempête. Non, ça veut dire que lorsque je traverse ça, lorsque je traverse des difficultés, lorsque je traverse comme les disciples, Jésus est mort, qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas ce qui va arriver. Quand on est dans l'incertitude, ça veut dire que je ne vois pas les problèmes en premier, je ne vois pas tout ce qui va mal en premier, je vois le potentiel de miracle, le potentiel de la provision de Dieu, je vois le potentiel de la résurrection, que Dieu peut faire quelque chose. Ça change la manière que je vois les choses. Ça veut dire que je ne regarde pas les autres juste comme des cas à problème. Ça veut dire que je vois les gens en disant « c'est un potentiel de résurrection, il y a un grand potentiel, beaucoup de potentiel, c'est pas encore de réalité beaucoup, c'est un grand potentiel, mais je vois le potentiel de la résurrection. » Et si je peux simplement nous rappeler en tant qu'Église, que lorsque des gens ici, parce que Dieu en amène par dizaines à chaque dimanche, ici dans notre maison, ici, à Québec, lorsque des gens rentrent ici et qui ne parlent pas comme nous, on parle, si ces gens-là ne parlent pas comme si ça fait 20 ans qu'ils vont à l'église, si ces gens-là n'agissent pas comme ceux que ça fait 20 ans qu'ils marchent avec Dieu, si ces gens-là ne sentent pas ce que d'autres sentent bon le dimanche matin, s'il y en a qui sentent le pot parce qu'ils ont fumé un joint avant de rentrer ici, c'est pas un cas à problème, c'est un potentiel de résurrection. Et il y a quelqu'un qui a besoin de laisser ça entrer dans ton cœur ce matin. On s'attend à Dieu. Alors, je ne vois pas les autres comme juste des cas à problème. Je ne vois pas les gens qui sont ici qui dérangent parce qu'ils ne savent pas comment agir. Parce que nous, déjà encore, Joe, tu es déjà là. Waouh, c'est fou. T'arrives-tu plus vite d'une réunion à l'autre? Non, c'est... Les gens qui arrivent ici, poqués par la vie, qui arrivent ici avec plein de blessures, plein de hypothéqués par plein de choses. C'est pas des gens avec juste des problèmes pour l'Église à gérer. C'est des potentiels de résurrection. Et la résurrection de Jésus change la manière qu'on les voit, ces gens-là. Je dis, Seigneur, touche-les, transforme-les, change-les pour ta gloire. Ça change la manière que je vois les choses. Je m'attends à Dieu. Dieu prépare quelque chose. Alors, cette personne-là est vraiment poquée. Cette personne-là est encore dans les dépendances, mais Dieu prépare quelque chose. Il y a quelqu'un ici en ce moment qui fait un stage avec nous. Si vous l'aviez vu il y a 2 ans, comme moi je l'ai vu, personne n'aurait pensé qu'il ferait un stage en ce moment. Mais Dieu préparait quelque chose. Dieu prépare des choses dans la vie des gens. Dieu prépare toujours quelque chose. Quand on se dit c'est impossible, Dieu prépare toujours quelque chose. Il faut changer nos attentes. Il faut s'attendre à de grandes choses de la part de Dieu. Il faut s'attendre que Dieu agisse. Lorsque je rencontre, par exemple, un jeune papa de notre église qui s'appelle Juan, si vous avez besoin de fortifier votre foi ce matin, je vous dis, prenez une note. Allez découvrir qui est ce Juan dans notre église et asseyez-vous à côté de lui dimanche prochain. Votre foi va être encouragée, fortifiée, boostée, vous n'avez pas idée. Juan, presque à chaque dimanche, il vient me dire, « Pasteur JP, le message était juste pour moi ce matin. » Je dis, « Je suis content de l'entendre, Juan. » Je suis vraiment content que le Saint-Esprit l'ait traduit de cette manière-là dans ton cœur. Vraiment. Puis Juan, si vous le voyez les dimanches, ben chaque dimanche, comme une horloge, toujours pareil. Les mains dans les airs. Pas les mains dans la louange, juste comme ça. Puis un peu comme ça. Puis des fois comme ça. Puis rien de mal. Chacun, regarde, tout le monde a son rythme, chacun sa façon. Mais Juan, lui, c'est les mains comme ça. S'il peut aller plus haut, il le ferait. Il peut pas. Ils sont juste au bout, en train de louer les larmes qui sont là juste à remercier Dieu. Après ça, il s'assoit avec son cahier de notes. Puis il est là à prendre des notes. Puis il monte ses notes, des fois, de mes messages. Juan a plus de notes dans ses mains que moi, j'en ai en avant. Je pense même pas que j'ai dit ça, Juan. Je pense même pas que j'ai dit. C'est même pas dans mes notes. Mais il est juste, Juan est juste là dimanche après dimanche, puis alors qu'il est avec l'équipe de prière, puis dans son groupe Nouvelle Vie, en semaine, puis il est là, puis il prend soin de vous. Vous allez voir Juan, chaque dimanche, je le vois en train de prier pour quelqu'un. Juan rentre ici avec des attentes. Il veut que Dieu parle, il veut que Dieu agisse, il veut que Dieu fasse quelque chose dans la vie des gens. Et moi, je prie que l'Église se remplisse de Juan, des gens qui rentrent ici en disant, « Seigneur, parle-nous, parle-moi, change-moi, rencontre-moi, transforme-moi, agis, Seigneur. » On a de grandes attentes. La résurrection change mes attentes. Je m'attends à de grandes choses de la part de Dieu. Est-ce que Dieu parle plus à Juan qui veut te parler à toi? Je ne pense pas. Mais Juan rentre ici avec de grandes attentes. Et Dieu vient les rencontrer. Alors ouvre ton cœur. Le Dieu de la résurrection est vivant. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à une rencontre qui peut changer ma vie. Utilise-moi pour parler à quelqu'un que moi, je peux peut-être changer sa vie par une parole que tu vas me donner, Seigneur. D'aller prier pour quelqu'un, d'aller voir quelqu'un, voir, il y a peut-être un besoin dans sa vie que je peux rencontrer. Seigneur, comment tu veux m'utiliser? Rentre ici avec de grandes attentes. Je vais m'attendre à Dieu. La dernière pensée, puis je termine avec ça. La résurrection me montre que Dieu est toujours en train de préparer quelque chose, peu importe ce que je traverse. Alors, je vais avoir des attentes. Seigneur, viens agir. Seigneur, agis dans ma vie, agis dans la vie de ma famille, agis dans la vie de l'Église. Mais la résurrection, dans Matthieu 27 et 28, vient aussi me donner une assurance. Ce n'est pas juste de la pensée positive. Je vais avoir une assurance. Et Dieu le prouve, Jésus l'a prouvé dans Matthieu 27 et 28, que Dieu règne toujours sur ma vie. Ce n'est pas juste des paroles où j'essaie de me convaincre moi-même. La résurrection de Jésus vient me donner une assurance. Que Dieu règne. Il régnait dans Matthieu 27, il règne encore en 2024. Et c'est l'assurance. Alors que les pharisiens, les politiciens, les hommes politiques, les hommes religieux se sont ligués ensemble pour essayer de freiner l'œuvre de Dieu, freiner la résurrection de Jésus. Par des gardes qui étaient là, par une pierre qui est roulée, une pierre qui est scellée pour s'assurer que personne ne peut la bouger. Alors que les autorités ont tout fait pour faire disparaître Jésus et son message. Imaginez ça, le dimanche matin, en un verset, Jésus vient renverser, se moquer littéralement de toutes les mesures, de toutes les stratégies humaines pour bloquer et freiner son œuvre. En un moment, Jésus, dans nos Bibles, c'est quelques versets, il vient juste renverser toutes les stratégies pour bloquer l'œuvre de Jésus de continuer. En revenant à la vie, la résurrection de Jésus, en l'emportant sur la mort, Jésus nous donne l'assurance que c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui règne. La résurrection de Jésus, ce n'est pas simplement une assurance que Jésus règne spirituellement. Parce que la résurrection de Jésus vient nous donner l'assurance que Jésus règne sur la mort, sur le péché et sur l'ennemi. Que peu importe les plans de l'ennemi, peu importe le péché que tu peux avoir dans ta vie, peu importe la mort qui est là spirituellement, Jésus règne spirituellement. Jésus, en un moment, a mis sous ses pieds l'ennemi, le péché et la mort. Mais Matthieu 27, 28 me montre que Jésus ne règne pas seulement spirituellement. Jésus règne aussi dans notre réalité à nous. Parce que Jésus règne sur les gouvernements qui étaient en place. Jésus règne sur l'élite religieuse qui était en place. Jésus règne sur les rois. Jésus règne sur les lois. Non seulement il régnait spirituellement parce qu'il a vaincu la mort et le péché, mais il a aussi renversé les projets de l'élite religieuse et l'élite politique en un moment. Jésus règne. Il règne spirituellement, mais aussi dans notre réalité. C'est le moment dans ça où ce que le monde spirituel, mais le monde réel, est entré en collision. Et Jésus a régné sur les deux en même temps. Ça veut dire que ce n'est pas simplement spirituellement, mon péché est effacé pour l'éternité. Ça veut dire que peu importe ce que les hommes ont essayé de faire, Jésus règne sur eux aussi. Et ça veut dire que Jésus règne sur ta vie aussi, sur ma vie aussi. Jésus règne sur son Église encore en 2024. Que peu importe ce que les gens, les gouvernements ou les lois vont essayer de faire pour freiner l'œuvre de Dieu, Jésus règne là-dessus. Et le roi David, des centaines d'années avant, va verbaliser ça d'une manière vraiment parfaite. Parce qu'alors que les hommes les plus puissants de l'époque ont essayé de freiner Jésus, et ce n'était pas nouveau, parce que des centaines d'années avant, les rois aussi ont essayé de freiner l'œuvre de Dieu. Et le roi David va dire ceci dans le psaume 2. Le roi David va décrire ça, là, comment Dieu règne. Il va dire, les rois de la terre, comme Pilate et les pharisiens, des années plus tard, mais les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel pour freiner l'œuvre de Dieu. et contre celui qu'il a désigné par onction. Il leur dit, arrachons leurs liens, jetons leurs liens loin de nous. Mais regardez la réponse de Dieu, verset 4. Celui qui siège dans le ciel rit. Je ne sais pas pour toi, mais moi, cette semaine, ça m'a encouragé. Celui qui siège dans le ciel, de Dieu qui règne sur toutes choses, regarde les rois, regarde les chefs des États, les gouvernements, les leaders, partout. Essayez de freiner son œuvre. Et Dieu lui est assis sur son trône, regarde en bas, et rit. Le Seigneur se moque d'eux. David est en train de dire que les rois peuvent se soulever, les chefs d'État peuvent se soulever, ils peuvent essayer de freiner l'œuvre de Dieu, mais il y a seulement le Dieu de la Bible qui règne de toute éternité. Les gouvernements arrivent et partent, les nations arrivent et partent, mais il y a juste Jésus qui règne de toute éternité. Il règne hier, aujourd'hui et demain. Et alors que les gens essaient de freiner son royaume, Jésus est en haut. Et moi, j'imagine Jésus alors que Pilate et les pharisiens se disent, voici ce qu'on va faire. On va mettre des gardes ici. On va mettre une pierre là avec une corde. On va mettre une corde qui va pas empêcher que Jésus sorte. J'imagine juste le Dieu qui siège dans les cieux, regardant en bas, partir à rire. Mettez-en donc plus des gardes. Peut-être essayez deux roches, peut-être. Essayez avec quatre cordes. Mettez ce que vous voulez. Il n'y a rien qui va empêcher mon royaume d'avancer. Je peux avoir l'assurance que Jésus règne. Et ce que je trouve fascinant, si vous me donnez encore 2 minutes. Alors que j'étudiais pour ce message-là cette semaine, puis je regardais Pilate, les pharisiens, qui se liguent pour freiner l'œuvre de Dieu, puis freiner tout ça. Mais c'est comme si l'Esprit de Dieu me disait, « JP, peu importe ce que les autorités ont fait il y a 2000 ans pour freiner mon œuvre, il n'y a rien qui a empêché mon fils Jésus de ressusciter. » Il n'y a rien qui a empêché mon œuvre d'avancer. Est-ce que tu penses que ta réalité québécoise, difficile pour implanter des églises, va freiner mon œuvre? Et je veux juste nous rappeler, chacun de nous, ici au Québec, je ne veux pas défier le gouvernement de faire quoi que ce soit, parce que ça peut partir en ligne, puis ça peut, les gens coupent et ils posent n'importe quoi. Mais je veux juste nous rappeler, vous voulez sortir Jésus des écoles? Do it. Vous voulez sortir le crucifix de l'Assemblée nationale pour sortir Jésus de notre province? Vous pouvez le faire. Vous pouvez dire maintenant, ça ne s'appellera plus Noël. Nous allons appeler ça maintenant le temps des fêtes. Parce que Noël, ça peut offenser les gens parce que c'est la naissance de Jésus. Puis on veut sortir Jésus de notre province. Fait que ça ne sera plus Noël. Ça va être le temps des fêtes maintenant. Vous pouvez faire tout ça. Vous pouvez enlever les salles de prière partout. Vous pouvez interdire le zonage religieux pour les églises qui sont en pleine croissance, qui cherchent des locaux pour aller déménager, pour avoir plus d'espace, pour accueillir toutes les gens que Dieu amène. Vous pouvez enlever les zonages religieux partout, si vous voulez, à toutes les municipalités du Québec. Vous pouvez faire tout ça. Vous pouvez mettre des lois pour restreindre le roi, les droits religieux. Et c'est comme si tu me disais, mais il n'y a rien ni personne en 2024, encore aujourd'hui, JP, qui va être capable d'empêcher mon œuvre d'avancer. Il n'y a aucun roi, aucun gouvernement, aucune loi qui va empêcher que mon royaume va continuer d'avancer. Et ce qui est vrai pour le royaume, l'est aussi pour toi. Ça veut dire que peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que les autres ont voulu faire, peu importe la manière que les gens ont voulu bloquer l'œuvre de Dieu dans ta vie, peu importe ce que l'ennemi va te dire, le mensonge de l'ennemi dans tes pensées, qui vont dire, voici la roche qui est placée devant toi, qui t'empêche maintenant de toute l'œuvre de Dieu dans ta vie, tout ce qui pourrait empêcher l'œuvre de Dieu. Dieu règne sur ça aussi dans ta vie. Et si vous me laissez encore 2 minutes, c'est le dernier peut-être. Verset 2, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait rire. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre quand un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vient rouler la pierre, tout ce qui voulait bloquer l'œuvre de Dieu, en un mouvement. L'ange l'a enlevé. Mais regardez ça. De devant l'ouverture, il l'enlève et s'assit dessus. Je vais demander à mes deux amis de pousser notre pierre, s'il vous plaît. Cette pierre très lourde qui est là pour bloquer là. L'ange, presque comme eux, deux anges qui sont là à pousser cette pierre. La pierre était ce que les hommes ont voulu mettre entre Jésus et l'accomplissement de ses promesses. La pierre représente ce que les hommes ont essayé de faire pour bloquer l'œuvre de Dieu. Ils se sont dit, Jésus ne pourra pas sortir, on va mettre une pierre. Cette pierre-là représente toutes sortes de choses pour nous. Cette pierre-là peut représenter tes erreurs du passé, ce qui est parfois l'ennemi va venir pousser cette pierre-là devant l'entrée de ton cœur. Pour dire non, Jésus ne pourra pas avoir accès à toi parce qu'il regarde les erreurs que tu as faites. Alors, l'ennemi arrive, mais ça, les erreurs du passé. Parfois, la pierre, ça peut être des paroles prononcées parce que des gens ont tellement dit des choses sur toi qui t'ont blessé, qui t'ont marqué. C'est comme si quelqu'un venait mettre une pierre devant ton cœur. Et à partir de ce moment-là, mais c'est juste que Jésus ne peut pas avoir accès. Ça, c'est toutes des stratégies de l'ennemi pour bloquer l'œuvre de Dieu en toi. La pierre peut être toutes sortes de choses. Des péchés, des dépendances, des problèmes, des problèmes de zonage d'église, des problèmes de bâtiment, ce qu'on cherche, où l'ennemi va dire, voyez, ça ne marchera pas. L'œuvre de Jésus va s'arrêter. Il y a toutes sortes de choses qui sont là. Et les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce que l'ange a fait, il a tassé cette pierre. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Ça m'a vraiment fait très... Il s'est assis dessus. Et moi, je l'imaginais, pas juste comme ça, je l'imaginais comme ça. Relax, comme ça. De psaume 2, alors que les rois se soulèvent et les chefs se liguent contre l'Éternel, celui qui siège, l'ange qui s'assoit sur la roche. Lorsque vous voyez Dieu assis sur son trône, c'est un signe d'autorité dans la Bible. Ça veut dire que Dieu règne. Dieu n'est pas en train de faire les 100 pas pour se demander ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va arriver. Dieu règne, il est assis. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, ça? Ça veut dire que tout ce que cette pierre représente, que ce soit les mensonges de l'ennemi, tes péchés, tes erreurs, ce que les gens ont fait, ce que des gens ont dit, tous les bâtons dans les roues que les gens peuvent mettre dans ta vie pour t'empêcher de vivre tout ce que Dieu a prévu pour toi, la parole de Dieu à la fin de ce message, c'est que Dieu règne sur ça aussi. Que ce n'est pas cette roche qui va avoir le dernier mot. Et ça veut dire quoi cette semaine? Ça veut dire que cette semaine, quand tu vas dire, ah oui, le Dieu de la résurrection, est-ce qu'il est pour moi? Qu'est-ce qui va arriver? Puis qu'est-ce qui peut... Il y a des roches devant l'entrée de mon cœur aussi. Est-ce que Jésus peut vraiment avoir accès? Cette semaine, ma prière, c'est que tout ce que cette roche peut représenter dans ta vie à toi, cette semaine, tu vas trouver une chaise, tu vas trouver un divan, tu vas trouver quelque chose cette semaine. Et lorsque l'ennemi va arriver pour te dire, regarde, ça ne pourra pas arriver. Ça, Dieu ne pourra pas avoir accès à ça. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas restaurer ça. Dieu ne peut pas guérir ça. Dieu ne peut pas pourvoir à ce point-là. Dieu ne peut pas le faire comme ça. Dieu ne peut pas vous donner un bâtiment comme ça. À chaque fois que l'ennemi va venir mettre une pierre devant l'entrée de ton cœur, tu vas trouver une place où t'asseoir. Puis tu vas dire, mon Dieu règne sur ça aussi. Et sais-tu quoi? Cette semaine, moi, je vais le faire. Je vais me couler un espresso. Je vais dire, Seigneur, t'aimes cette église plus que moi. Peu importe ce que les lois vont faire, peu importe ce qui va arriver, tu règnes. Je m'assis et j'attends de voir ce que tu vas faire. Dieu prépare quelque chose. Et pendant que Dieu prépare quelque chose, ma posture à moi, c'est pas d'être inquiet, c'est pas de me dire qu'est-ce qui va arriver, puis de faire les 100 pas. Je m'assis. Si vous regardez dans Éphésiens chapitre 2, Jésus est assis dans les lieux célestes. Mais savez-vous quoi? Si tu marches avec lui, tu es assis avec lui. Alors, Seigneur, je m'assis avec toi sur la roche qui paraît l'impossibilité et je m'attends à toi. Hey, je vous invite à vous lever à votre place. Mon Dieu règne. Il y en a qui ont besoin de l'entendre ce matin. Dieu prépare quelque chose. Ça veut dire que peu importe ce que je traverse, je vais avoir des attentes que Dieu est à l'œuvre. Je ne vais pas me dire qu'est-ce qui va arriver, puis je ne vais pas me dire, wow, il y a plein de problèmes, il y a plein d'impossibilités. Je vais me dire, Seigneur, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais je sais que tu vas agir, je sais que tu prépares quelque chose. Alors, Seigneur, je vais avoir des attentes que tu vas agir et je veux marcher avec une assurance que tu règnes. À la fin de tout ça, tu règnes sur ma vie, Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu ressuscité. Alors, je veux m'asseoir avec toi sur cette roche d'impossibilité et dire, Seigneur, tu règnes. Mes erreurs ne règnent pas. Les impossibilités ne règnent pas. Le gouvernement ne règne pas. Les impossibilités qui paraissent dans ma vie, voici ce qui me manque, ne règne pas. Mais mon péché ne règne pas. C'est ta grâce qui règne. C'est ton amour qui règne. C'est ton pardon qui règne. C'est ton esprit qui règne. C'est ta parole qui règne. Et je veux m'asseoir avec toi cette semaine dans une posture de « J'ai confiance que Dieu prépare quelque chose. » Oh Seigneur, je te prie pour chaque personne au son de ma voix ce matin. Seigneur, tu connais ce que cette roche représente pour plein de gens ce matin. Elle représente des choses uniques à chacun, personnelles à chacun. Et Seigneur, je prie que tu viennes ce matin, comme l'ange dans Matthieu 28, bouger cette pierre et quand tu nous appelles à s'asseoir avec toi dans les lieux célestes, spirituellement sur cette roche, en disant, Seigneur, tu règnes même sur ça. Et Seigneur, pour chaque personne ce matin qui avait peut-être perdu espoir, pour chaque personne ce matin qui avait peut-être perdu des attentes en toi, pour chaque personne ce matin qui avait peut-être lancé la serviette que tu pouvais agir, Seigneur, ranime le feu dans nos cœurs. Ranime la foi dans nos cœurs que le Dieu de la résurrection est en nous. Alors Seigneur, nous avons de grandes attentes, Seigneur, de te voir agir. Seigneur, pour ceux qui avaient abandonné l'idée de te voir agir dans leur vie, viens ranimer dans leur cœur la foi pour dire « Le Dieu de la résurrection est en moi. » Alors j'ai de grandes attentes. Seigneur, fais-nous voir ce que toi tu vois. Donne-nous la foi de voir, Seigneur, ce que tu nous appelles à voir. Et Seigneur, change notre regard sur nos circonstances. Change notre regard sur des gens pour voir le potentiel de résurrection dans les gens et dans les circonstances. Alors Seigneur, viens faire ton œuvre et on va déclarer ensemble ce matin que tu restes le même. Le Dieu de la résurrection il y a 2000 ans est le même encore aujourd'hui. Ton esprit est à l'œuvre dans ce lieu et on te déclare que tu continues ton œuvre en nous. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.